C'est-à-dire que les principes d'égalité des citoyens devant le service public, etc., font malheureusement toujours l'objet d'un certain nombre de difficultés, incompréhensions, et parfois même des dispositifs internes au service qui font que les choses stables sont déjà préparées pour éviter que certains usagers puissent bénéficier d'un certain nombre de services, etc. Donc, le monde idéal du service public à la française, quelque chose de tout à fait remarquable. Quand je faisais mes études de droit, je m'étais spécialisé sur justement cette conception du service public. Cette culture du service public qui pouvait aller à l'époque vers même un culte du service public. Mais qui...
Transcendantal.
Transcendantal. Transcendantal, oui, tout à fait. Donc, nous trouvons en face d'un certain nombre de contradictions. Et l'ouvrage de Stéphane, et je voudrais que maintenant, peut-être, vous puissiez réagir par rapport à cet ouvrage que vous avez lu, parcouru. L'ouvrage de Stéphane identifie donc à travers les trois écueils là, qu'il a rappelé un certain nombre de difficultés fondamentales, mais il y en a encore d'autres. Parce que d'une part on ne peut pas tout dire, parce qu'on aborde des problèmes à partir d'un certain point de vue, un topos. Et donc il y a un certain nombre de choses qui restent dans l'ombre, qui ne sont pas. Donc cet ouvrage devrait pouvoir être par la suite prolongé par certains d'entre vous qui, prenant le relais, car c'est important de prendre le relais de la recherche en matière d'interculturalité, eh bien, reprendre les questions qui ont déjà été ici mises en scène pour pouvoir effectivement continuer et en généraliser les questionnements pour pouvoir contribuer à ce changement dans les mentalités qui est vraiment le requis le plus fondamental de nos démarches ici. Voilà, alors,
je relaye cet appel du cofondateur de Regard. On a besoin d'énergie nouvelle dans l'association. Donc vous êtes
engagez-vous.
Voilà. Mais ça ne demande pas grand-chose. Hein, ça demande pas grand-chose.
Non.
Mais comme vous voyez, bon, nous sommes d'une génération à la retraite, donc nous avons besoin de personnes actives.
Voilà. Ouais. Oui.
Parce que c'est un travail de longue haleine, très longue haleine.
Écoute,
présente-toi parce que tu n'étais pas là au
c'est Olivier. Je suis généraliste, donc retraité en activité, donc je ne suis pas pour l'association Regard, puisqu'il faut des forces jeunes.
si. Olivier, on se connaît depuis 35 ans. Donc,
Et comme Stéphane, je suis aussi un ancien médecin africain. Ma remarque, elle n'est pas du tout élaborée. Vous allez la trouver un peu confuse, mais j'ai un problème sur lequel je vais arriver. J'entendais cette histoire de transcendance et d'immanence. J'entendais aussi cette histoire de monologos, hein, qui a entraîné la fameuse dialectique hegelienne et tout ça. Et donc toute ma vie, au contact de populations différentes, je me suis posé la question de l'écoute, d'essayer de comprendre ce que disaient les gens, que ce soit des indigènes parisiens, ou que ce soit dans d'autres pays, j'essaie de comprendre tout ça, de me mettre à leur niveau, de me remettre en question, de voir mes erreurs avec tous les retours de refoulé. Tu parles des réunions qu'on avait le mardi, mais combien dans ces réunions j'ai eu des retours du refoulé mauvais, hein, qui revenaient. Donc, Où j'en arrive là, c'est dans ma petite confusion, vous me pardonnerez, c'est l'instabilité des choses. C'est-à-dire que les choses, dans cet échange culturel, cette écoute de l'autre, de compréhension, etc., c'est pas stable, c'est pas figé. Et concrètement, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que depuis 2 mois, j'ai un problème médical qui se pose, c'est-à-dire la confrontation entre le gentil médecin et le méchant médecin. Alors, qu'est-ce que c'est que le méchant médecin? C'est le médecin vertical qui va dire « Madame, vous discutez pas, vous allez à l'hôpital, point barre. Hein? » Le gentil médecin, il va dire « Je pense que vous devriez arrêter votre croisière et aller au port. » C'est un cas d'étude d'école. Hein? Vous devez aller au port, aller faire vos analyses parce qu'il y a un risque de phlébite et d'embolie, etc. Et donc, j'ai eu à réfléchir depuis 2 mois, mais ce n'est pas la première fois dans ma vie que je réfléchis à ce problème, sur le fait d'être un autoritaire, un vertical, qui ne va pas tenir compte que cette personne avait prévu depuis 6 mois ou 1 an son voyage, c'était un super voyage qu'elle a prévu en catamaran, etc. Et de dire non, je m'en fiche. Vous dites au capitaine d'aller au port, vous arrêtez, tant pis les autres touristes seront embêtés, mais c'est comme ça, etc. Et le gentil médecin qui peut-être dit « je comprends votre situation, etc. mais qu'est-ce que vous en pensez, etc. » qui va faire le processus. Donc, derrière tout ça, ce que je veux dire, c'est qu'il y a les idées, les attitudes de compréhension de tout ça ne sont pas figées. 50 ans après, j'en viens me reposer cette question de la nécessité d'être quelquefois autoritaire pour imposer quelque chose et de ne pas tenir compte empathiquement de ce que la personne est. J'ai bien sûr, vous comprenez bien, pas de réponse à cette question, mais voilà, c'est ce qui me travaille, c'est effectivement de me dire que peut-être il y a des moments où il ne faut pas tenir compte de l'autre. Et c'est un point d'interrogation.
Bon, écoute, merci de cette contribution qui nous montre à quel point le sujet est difficile et délicat. Il est clair que le SAMU ne se pose pas de questions face à un arrêt cardiaque. Hein, quand il y a un arrêt cardiaque, on ne va pas se dire là, est-ce que je lui parle bambara ou est-ce qu'il parle. Non. Et puis, est-ce que vous acceptez que je vous fasse un massage cardiaque? Donc, ça c'est clair. Allez-y.
Non, c'est juste, je réagissais parce que je me demande si ce n'est pas un peu autour de cette question que l'hommage qu'a rendu Étienne tout à l'heure à la justice des mineurs de cabinet, sans être. Donne un certain nombre de pistes, puisque oui. C'est quand même un. Bon, ça, moi, j'ai été juge des enfants pendant très très longtemps, avec tout à fait ouverte aux travaux que vous avez faits sur l'interculturalité, l'intermédiation culturelle dans les tribunaux pour enfants. Mais je pense que ce modèle de justice, qui a ses imperfections aussi, qui véhicule, je pense qu'il y a une. En fait, il y a un corpus de règles. Il y a des principes, mais qui sont ouverts et adaptables. Donc après, bien entendu, dans ce corpus de règles, il y a une vision de la société qui est très, très marquée, hein, sur, et qui peut être interprétée de manière différente sur qu'est-ce que c'est qu'un enfant en danger, sur la définition d'autorité parentale. Mais dans ce corpus-là, il y a une souplesse dont on n'a pas forcément l'habitude en droit, hein, qui est la recherche de l'adhésion des familles, le respect, la prise en compte dans la mesure de possible de leur choix philosophique, culturel. Voilà. Et je pense que c'est dans cette. Il y a une forme de.
Cette marge de manœuvre.
Chemin entre l'autorité, la décision de quand il faut placer un enfant immédiatement, même sans explication, parce que c'est un danger de vie ou de mort, on va le faire. Mais il y a comme ça une graduation du droit qui va dans le même sens, mais avec des modes opératoires qui, selon l'appréciation qu'on fera de la situation particulière, on va être plus ou moins dans la souplesse ou dans l'autorité. Mais voilà.
Et je crois que c'est bien pour ça que l'expérience d'Étienne.
Il y a cette. Que Étienne y trouve ou y a trouvé un terrain
exactement.
Peu, particulièrement intéressant.
Exactement, que chez les adultes, ça aurait été impossible. Alors il y avait Jacqueline et puis toi.
Mais quelle merveille! Quelle merveille de voir à certains moments des magistrats entrer dans le mystère de l'enfance ou de l'adolescence, en comprendre les ressorts et aider un être humain à devenir à l'état d'adulte à partir de ses propres ressources. Ça arrive. Oui. Bon, et Catherine a sorti un ouvrage il y a 2-3 ans, je ne sais plus très bien, mais tout à fait remarquable, dans lequel elle transmet sa propre expérience avec donc toute cette dimension, non seulement d'humanité, mais d'intelligence, pour entrer dans ces mystères qui sont à chaque fois ceux d'un enfant qui est en train de se poser au monde, qui affronte le monde et auquel on devrait favoriser toutes les possibilités d'autodéveloppement. Et en fait, la machine, elle n'est pas possible, puisqu'on a le tableur Excel qui nous interdit de prendre en compte quoi que ce soit. Hein.
Peut-être pas encore tout à fait en justice des mineurs, ouais, heureusement.
Mais c'est en train de venir, d'après ce que je comprends.
C'est en train de venir ?
Ben, il y a déjà...
Oui, c'est sûr que c'est en train de venir, mais il y a toujours, je pense, quand même un espace dans lequel on peut travailler à l'ancienne.
Jacqueline, et puis Ahmed.
Non, moi, c'était pour Catherine que je te faisais
ça. Ah, d'accord, ok. Alors, Ahmed, si vous voulez...
Moi, peut-être, je vais parler de mon expérience personnelle. Mmh. Surtout, je vais prendre l'institution universitaire. Mmh. On a créé depuis une trentaine d'années, à l'époque, c'était un DESS de psychologie clinique interculturelle. Après, tout simplement pour parler de la difficulté de traiter de l'interculturalité dans l'espace français. C'est-à-dire dans un département de psychologie où on était quatre qui faisons marcher ce master de psychologie interculturelle, on était considérés ceux qui s'intéressent aux immigrés, les psychologues qui s'intéressent aux immigrés. On a beau leur dire qu'on travaille sur l'altérité, que chez Freud il y a le narcissisme, des petites différences, toutes ces problématiques de l'altérité, mais rien à faire parce que chacun s'est campé dans son modèle freudien orthodoxe ou lacanien orthodoxe et traiter de l'interculturalité à l'intérieur de l'institution, c'est, surtout universitaire, c'est quelque chose de difficile. Et je me rappelle quand j'étais inter-service migrant, j'étais responsable de formation qui m'a permis de sillonner un petit peu toute la France pour faire des formations sur l'interculturel, sur les droits des immigrés, sur la vieillesse des immigrés, sur tout ça. Bah, Tout le besoin et les attentes qu'ont ce que tu appelles les travailleurs de première ligne ont besoin de cet apport de l'interculturel. C'est-à-dire, il y a des attentes, il y a des besoins, mais au niveau faisabilité, on n'arrive pas. Et c'est pourquoi tu as parlé de l'usure. À un certain moment, on arrive à une certaine usure. Et il faut justement ce que peut-être dans la pensée chinoise appelle la disponibilité, être disponible. Mm-hmm. Et la disponibilité, et surtout dans l'interculturalité, le concept de disponibilité est un concept fondamental. Donc j'aimerais bien, et on peut-être aussi, pour appuyer ce que tu disais sur actuellement les évaluations, parce qu'actuellement je travaille dans le milieu gériatrique, et bien sûr le modèle gériatrique maintenant c'est l'évaluation, tu dois passer à un MMS, et bien sûr tu dois dire que la personne elle est démente. Et moi qui refuse de passer des tests et de dire, ben je suis considéré comme un marginal dans l'institution. Donc voilà, on écho les problématiques de l'interculturalité, que ce soit par rapport à la petite enfance, par rapport à l'adolescence ou par rapport aux personnes âgées.
Non, je crois que vraiment ce que je disais, le premier axe du ciseau, le rouleau compresseur du néolibéralisme est absolument terrifiant, terrifiant. Et avec l'aide de la numérisation... Il y a quand le livre d'Éric Sadin, là, La silicolonisation du monde, qui décrit vraiment bien à quel point notre société se trouve colonisée par le numérique, au sens imposition d'un modèle par l'extérieur et d'un modèle de référence, de valeurs, de normes, de croyances, uniquement véhiculées au travers de l'usage du numérique.
Et on a des sociétés, moi je suis d'origine tunisienne, je vois la Tunisie maintenant, elle est malade de Facebook. Les gens, ils utilisent Facebook pour dire du mal de l'autre, de son voisin. Donc ce n'est pas devenu un outil de communication, c'est devenu un outil de la haine de l'autre, de l'autre.
Et non, et puis ça, Facebook veut se doter des moyens d'un État, une monnaie, des juges, avec un comité central d'éthique, enfin, ça veut devenir un super État de 3 milliards d'habitants. Ça pose question quand même. Et pour eux, l'interculturalité, c'est simplement la traduction simultanée en Google. Voilà. C'est assez simple, c'est facile. Je veux dire, à ce moment-là, on n'a plus à être là. Mais sauf qu'on a cherché le sonaké sur Google Translate et ça n'existe pas. Vous vouliez dire quelque chose ?
Oui, moi, ça me parle, parce que tous les jours dans mon travail, on pose des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Parce qu'étant moi-même africaine, face à un public masculin, âgé et africain, donc c'est très compliqué la relation au quotidien. Je me pose toujours des questions, je ne sais pas quoi faire parce que. Ils me disent, il y a une certaine familiarité qui se crée, et sachant que je dois rester professionnelle, on me dit de ne pas tutoyer les résidents qui viennent vers moi, de ne pas parler ma langue maternelle parce que certains parlent poulard, et que parfois ils ne comprennent pas, et j'ai un réflexe de l'expliquer dans ma langue maternelle. Alors c'est interdit. Du coup, plein de questions se posent, et même moi, je viens avec. Bien sûr, j'ai aussi des préjugés, étant aussi africain, me dit non, c'est une personne âgée, il ne va pas accepter que je lui parle d'aller à un cours de danse par exemple ou à un cours de théâtre. Et du coup, je m'auto-censure à proposer des actions sur ces activités-là, parce que moi-même je me dis, du coup, exemple concret, j'ai eu une association qui propose de la gym douce pour les résidents âgés. Tout de suite, j'ai dit non, spontanément. Ah non, ça ne les intéresse pas. Ah j'aime tous, non. Ça ne marchera pas, parce que je sais, parce que c'est des musulmans, c'est des personnes âgées, la danse, la gym douce, tout ça, c'est très éloigné de leur culture. Et pourtant, j'ai dit, bon, on va quand même essayer.
Parce que vous êtes Madame Awaba et que vous avez...
On va quand même essayer, on ne sait jamais, mais je n'étais pas du tout convaincue. Et la grosse surprise, ça marche.
Ça a marché.
Ça fait presque un an, ça dure. Les résidents viennent d'eux-mêmes. J'ai même plus besoin de faire de la mobilisation ni d'aller les chercher. Tous les mardis soirs, il y a le Stéphane, l'animateur qui vient, qui propose la gym douce. Et il y a une dizaine de personnes qui participent, un groupe qui... Voilà. Donc, tous les jours, donc, je me repose des questions. Et les résidents qui viennent en retard, des fois, j'ai envie de les gronder. Pourquoi c'est tout le temps en retard? Et ils me disent, mais toi, tu comprends. Je dis non, je ne comprends pas parce que du coup j'ai du travail qui s'accumule, vous êtes en retard, j'en ai marre des rendez-vous, je m'énerve un petit peu. Et puis ils me disent, normalement tu ne dois pas être comme ça. Je suis ton père, je suis ton oncle. Je le comprends parce que pour moi aussi c'est vrai, c'est mon oncle, c'est mon père, mais là, dans le cadre du travail, je ne peux pas. Je ne peux pas te considérer comme un oncle ou quelqu'un de ma famille. C'est une relation professionnelle. C'est très difficile de les expliquer ça. Et je leur dis, si vous avez un rendez-vous avec un travailleur social à la mairie, est-ce que vous vous comportez comme ça, vous venez à l'heure? Ils me disent oui, mais ils ne comprennent pas. Mais toi, je comprends. Et du coup, tous les jours, donc, il y a plein d'exemples comme ça, plein de détails comme ça qui se construisent et qui se déconstruisent. Donc, un jour, je suis gentille, l'autre jour, je suis méchante. Eux-mêmes, ils sont perdus, c'est plus simple. Ils ne savent plus. C'est « Ah ouais, mais t'es bizarre aujourd'hui. » Mais je dis « Non, c'est parce que si je ne fais pas ça, ça ne va pas marcher. Donc, il faut que je sois autoritaire. » Parfois, je suis aussi, je deviens, sans m'en rendre compte, la nièce, la cousine, la petite fille. Et du coup, j'ai tendance à être plus accessible. Je les accompagne même dans les rendez-vous à l'extérieur alors que je ne devrais pas. Et je ne sais plus, en fait. Tous les jours, je me pose.
Mais il est clair que quand je parle des travailleurs de première ligne, je parle aussi de personnes comme vous. Hein, c'est clair, je ne parle pas que du travailleur franco-gaulois. Non, mais c'est ça. Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé dans une formation que j'ai faite auprès des aides à domicile. Les aides à domicile, donc, il y a un dispositif de formation extrêmement sophistiqué qui s'est mis en place avec beaucoup de moyens. Tant mieux. Parce qu'effectivement, c'est des personnes qui sont extrêmement impliquées. Les aides à domicile, dont une grande majorité, sont africaines. Et elle me disait, quand on travaillait sur la question d'interculturalité, « Ah ben moi, quand je regarde sur le registre le nom, si c'est un nom africain, j'y vais pas. » dis, ah bon, mais pourquoi vous n'y allez pas? Ben, parce qu'ils vont me transformer en esclave et ils vont... C'est plus l'aide à domicile, mais c'est la personne, la bonne à la maison. Et puis il y en a une autre qui me dit, oui, mais de toute façon, là, si c'est africain, ils vont m'ensorceler. Ils vont me jeter un sort. Donc j'y vais pas. Donc c'est tout ça ce qu'il faut arriver à travailler. Et surtout, ce qu'il faut, c'est que votre institution vous soutienne. C'est ça l'important. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de travail donc en disant que le travailleur de première ligne doit faire un travail personnel, mais s'il n'est pas soutenu par son institution, ben, il perd pied. Il se retrouve complètement perdu. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur les cadres de santé. Parce qu'eux, ils ont l'oreille de l'institution. Ils ont l'oreille du directeur de l'hôpital. Ils peuvent lui dire, c'est important d'avoir une fois par mois, 2 heures où on met ça sur la table et on en discute librement et sereinement. Et donc on va libérer 2 heures. Mais les deux vont ensemble. Et il est clair que ce que vous décrivez, je pense que vous n'êtes pas du tout la seule à le vivre au quotidien. Pas du tout la seule. Hein, je ne sais pas si...
Ah oui, c'est vrai. Mais complètement... Ah oui, pardon.
Oui. Allez-y.
Mais, c'est un discours qui fait écho, hein, parce que dans le quotidien, on est confronté à des situations un petit peu similaires et on ne sait jamais où mettre les curseurs entre. Quand, des fois, comme elle disait tout à l'heure, on s'autorise à prendre des décisions à la place des résidents. Parce que nous-mêmes, on est tellement formatés aussi par. Comment dire, les cadres institutionnels et tout.
Et vous avez des injonctions, on vous demande.
Oui. Voilà, donc on va souvent loin dans nos positionnements. Donc des fois on est un petit peu réfractaire par rapport à certaines choses. Et des fois à l'inverse aussi, on devient d'un seul coup moins accessible pour les publics qu'on accompagne. Et on va même, des fois ils nous considèrent même comme étant des obstacles. À la réalisation de leur projet ou des choses comme ça. Et récemment, on a eu un cas un petit peu problématique. Un monsieur dont on soupçonne être, avoir le syndrome de Diogène. Donc, il n'aimait pas qu'on l'aide. Notamment, on lui a proposé de l'aider à désengorger un petit peu son logement qui est extrêmement encombré. Et il n'a pas voulu, donc du coup, voilà, avec les collègues et également des partenaires de la mairie, on s'est dit, bon, s'il ne veut pas, on va essayer de lui forcer la main. Donc, voilà.
Jamais forcer la main à Diogène.
Hein. Ouais. vraiment, c'est juste pour dire que voilà, ouais. c'est quelque chose qui, au quotidien, est extrêmement pénible.
Ah oui, voilà. Tout à fait.
Oui, je voulais juste...
Il y avait Nana qui avait demandé la parole,
oui, tout à l'heure. Ben, c'est vrai que moi, en tant que principale adjointe, et même quand j'étais CPE, la problématique qui se pose à moi, c'est les enfants ou la protection de l'enfance. On a des élèves qui se confient à des assistantes sociales et généralement, quand c'est d'origine africaine ou d'origine maghrébine, on parle souvent de maltraitance. Mais le mode éducatif maghrébin ou le mode éducatif de certains Africains, comparé au mode éducatif européen, occidental ou français en tout cas, diffère beaucoup. Donc des choses qu'on prend ou des actes qu'on considère comme de la maltraitance dans le mode éducatif européen ne l'est pas du tout dans le mode éducatif africain. Et donc on a des assistantes sociales qui... signale des cas de maltraitance et des enfants qui sont enlevés aux parents, qui sont placés où il y a un jugement. Et souvent, les situations que moi j'ai vécues jusqu'à présent, l'enfant réintègre après. Donc, et par contre, le temps de l'éloignement de l'enfant, il y a une cassure qui se fait et qui est difficile à combler après. Donc, j'ai souvent des familles qui viennent se plaindre pour dire, voilà, je ne veux même pas voir l'assistante sociale, même pour faire une demande d'aide, d'aide financière, ou voilà, une aide quelconque, parce que je ne veux pas que l'assistante sociale mette son nez dans ma famille. Donc même si je suis en difficulté, je préfère pas venir. Donc on a des personnes qui passent à côté de droits, enfin d'aide quelconque, parce qu'ils ont peur de ça. Et moi je suis un peu partagée, enfin un peu, je suis toujours partagée, parce qu'il y a des familles qui s'effondrent dans mon bureau, mais sous le sceau de la comment je représente l'institution quelque part. J'ai l'assistante sociale, mais qui est tenue au secret professionnel, qui ne veut pas partager, qui ne veut pas qu'on travaille ensemble, et qui donc déclare des situations. Et je sais que ça va être une catastrophe au niveau de la famille, et souvent ça l'est. Toutes les situations que je connais, j'en ai vu peut-être une situation, mais bon, je n'ai pas le suivi de l'élève. Et ça fait mal, parce qu'en même temps, on a des lois, on a des règles, elle l'applique, l'assistante sociale, elle l'applique, les règles, elle fait un signalement, et on sait qu'au bout du bout, il y a de la souffrance, tant au niveau de l'élève qu'au niveau de la famille, au niveau de l'élève sur le long terme et au niveau de la famille immédiatement. Mais vous êtes africaine, vous comprenez. Oui, je comprends, mais qu'est-ce que je fais? Et là, c'est, pour moi, ça me questionne beaucoup. Et donc, ce que je fais quand je peux, c'est de prendre, d'aller contre l'institution. Je vois l'élève, je vois la famille, je fais de la médiation. Je joue le rôle de la tante ou de la grande sœur de l'élève, le rôle que je jouerais dans une grande famille africaine, pour parler à l'enfant, pour faire comprendre à l'enfant un certain nombre de choses, le temps qu'ils grandissent, qu'ils comprennent. Mais je sors de mon rôle, quelque part, pour jouer un autre rôle, pour permettre à la famille de rester, de ne pas subir cette injonction institutionnelle. Ce n'est pas facile.
Ouais. Je pense que la problématique que vous posez, elle ne concerne pas les familles africaines ou autres, elle concerne toute la problématique du signalement, quelle que soit l'origine de la famille. Voilà. Et après, de la capacité de l'institution à évaluer. Parce que, je veux dire, de la maltraitance, il y en a dans des familles, quelle que soit l'origine. Après, il faut pouvoir distinguer ce qu'il... Donc, je pense que là, c'est vous qui êtes dans une forme de telle inquiétude que, je veux dire, un signalement, c'est une violence en soi, quelle que soit la famille dans laquelle elle intervient. Et la question, c'est la capacité après des professionnels à avoir une évaluation suffisamment fine pour distinguer ce qui est de l'ordre d'un fonctionnement familial. Et quand vous parlez d'une séparation traumatique et d'un retour et d'une incompréhension, c'est la majorité, hélas, des enfants qui ont été placés, quand on leur demande pourquoi ils ont été placés, ils ne savent pas pourquoi ils ont été placés, ils n'ont pas compris, ils pensent que c'est contre la famille et que ce n'est pas pour eux. Donc je pense que le questionnement que vous posez, il concerne l'ensemble d'une manière générale, l'institution, ce n'est pas une question de culture.
Je suis tout à fait d'accord.
Voilà, on se met soi-même parce que c'est une famille, c'est parce que c'est une famille d'origine. Il faut après être capable de tenir compte, de comprendre. Il y a souvent dans les signalements la question des jouets, qu'on vous dit très souvent, les enfants n'ont pas de jouets. Vous avez des professionnels un petit peu affûtés qui vont dire, c'est pas un problème. Dans cette famille, c'est pas un problème. Mais dans cette autre famille, c'est un problème. Le tout, c'est de savoir de comprendre comment, quelles sont les pratiques, les habitudes, qu'est-ce qui se transmet.
J'ai voulu dire que je suis totalement en désaccord avec vous. Donc j'ai fait un lapsus, pourquoi? Je suis psychologue, j'ai supervisé une équipe d'aide sociale à l'enfance à Sarcelles. 95% des signalements, c'est des enfants d'origine africaine, maghrébine ou turque. On peut se poser la question, pourquoi?
Oui, mais c'est...
Moi-même, j'ai écrit dans le divan familial sur ces problématiques-là. Donc, le problème, c'est que, comme disait madame, l'éducation à l'africaine, l'éducation à la maghrébine n'est pas l'éducation à la française. Le modèle français ne coïncide pas à une autre altérité de l'éducation. Et je suis, comme Stéphane, je suis docteur en sciences de l'éducation aussi. Donc j'ai analysé toutes les problématiques de l'éducation des enfants.
Il n'y a pas de désaccord, là. C'est plutôt sur la question de comment on forme...
Pour vous mettre un petit peu... Je pense qu'il faut distinguer, quand on dit africain, on parle de quoi? Il faut distinguer les primo arrivants des deuxième et troisième générations. Il est clair quand même que, naguère, hein, s'il y avait un point qui était partagé entre le colon et le colonisé, c'était la chicotte. C'est-à-dire tout le monde était d'accord avant la Deuxième Guerre mondiale pour travailler l'éducation à la chicotte avec les enfants. Hein, moi, c'est après la guerre, mais je veux dire que ma maîtresse de primaire, elle était plutôt de l'ordre des châtiments corporels. Hein, donc, ça se faisait à l'époque. l'évolution des processus pédagogiques en Europe a fait que on a eu une dissociation et que les primo-arrivants, ils arrivent avec justement l'idée que bah moi, mon grand-père, mon arrière-grand-père, il était tout à fait d'accord avec le chef de cercle, etc. Les gamins, il fallait leur donner la fessée quand ils faisaient des bêtises. Aujourd'hui, la gifle est interdite en France. Ah ! Oui, mais comment on fait ? Comment est-ce qu'on fait ? Et je pense que c'est là où tu parles de la finesse des juges des enfants. Alors toi, effectivement...
Ceux qui oui. font les évaluations, c'est non, mais... les enfants.
Parce que la loi du juge est plus forte que la loi du père en France. C'est, oui. On se réfère au juge et le père. Le père, oui. Comme disait mon collègue Camilleri, le père, il est désautorisé. Il perd son autorité.
Oui. Alors, juste, je finis, puis je te donne la parole. Je crois que là aussi, l'objet, c'est la mobilisation de la personne dans sa personnalité elle-même, ce qu'on appelle la professionnalité. C'est-à-dire que là, professionnalité, c'est la combinaison de profession et personnalité. Chacun habite le métier avec sa personnalité. Et toi, tu l'habites en tant qu'Africaine, comme Awa l'habite en tant qu'Africaine. Et donc, il faut arriver à le maîtriser, justement, pour ne pas se laisser entraîner dans une dérive où finalement, je ne sais plus où je suis. Je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus ce que je dois faire, je ne sais plus comment je dois le faire.
Et ce que je veux dire, la conséquence de cela, c'est que je vois des parents aujourd'hui, des pères ou des mères qui disent, mais moi je ne lui dis plus rien à mon enfant. Oui, il a été enlevé, il y a eu un retour, l'élève est là, mais je ne lui parle plus parce que je ne veux pas aller en prison. Je ne veux plus me retrouver devant une instance pour me dire que je suis un mauvais parent parce que la manière dont je veux éduquer mon enfant, on me le reproche, alors que j'aime mon enfant, je veux l'éduquer à ma manière. Donc les codes sont là. Et en Occident, on a l'habitude de discuter avec l'enfant, de parler, dans le milieu africain en tout cas que moi je connais, on ne parle pas à l'enfant. Donc le fait de si on n'apprend pas à parler à son enfant et que l'enfant grandit dans un milieu où on parle, il a l'habitude, enfin, il va à l'école, il voit que les adultes parlent avec les enfants, mais que chez lui, on ne parle pas à l'enfant parce que les parents ne... Enfin, moi, j'ai 60 ans, je ne parle pas, même jusqu'au décès de maman, quand elle me parlait, je baissais les yeux, parce que j'ai été élevée comme ça. Et je l'ai fait inconsciemment avec mes enfants. Quand il me regardait, je disais, baisse les yeux ou je te les crève. C'est assez violent quand même. Et pendant ce temps-là...
Bon, ça va, elle a résisté.
Et leur père disait, mais regarde-moi. Et moi, je ne m'étais pas rendu compte que moi, je leur disais de baisser les yeux et que leur père disait, regarde-moi. Donc le jour où une maîtresse me dit, Julien, il est sournois, quand on lui parle, il baisse les yeux. Et là, j'ai dit ça en pleine figure. Pourtant, enfin, je suis arrivée, j'étais cadre, j'ai travaillé, j'ai fait des études et je ne me rendais pas compte de ça. Et combien de familles, combien d'enfants grandissent avec ça, où à l'école, il y a des valeurs qui sont, et à la maison, donc on passe le pas de la maison, c'est complètement autre, et ils sont dans cette schizophrénie éducationnelle, et c'est assez compliqué. Et ça, est-ce que l'institution se pose la question à un moment donné, de se questionner là-dessus pour adoucir les choses,
La réponse est non, mais elle devrait.
Je peux y répondre, justement, je vais rebondir là-dessus. Moi, ça fait quand même plus de 30 ans que je suis dans l'éducation nationale, c'est vrai que cette question de l'interculturalité est complètement absente. Et je veux dire, et en plus, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on entend... Tu parlais tout à l'heure du voile des infirmières là, qui étaient visagées et tout. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, la polémique qu'il y a eu. Avec la CPE a sorti une affiche où il y a une maman voilée. C'était une affiche parmi d'autres. Je vais en sortie scolaire. Où le ministre de l'Éducation dit d'une part c'est regrettable, c'est une erreur, que la FCPE flatte le communautarisme. Voilà, je veux dire, le problème est posé. Et là, je vois que monsieur travaille interservice migrant. Moi, je sais que le gros souci qu'on a maintenant, c'est d'avoir, ne serait-ce que d'avoir des interprètes physiquement pour une certaine famille. Comment voulez-vous dialoguer? Voilà, moi, l'année dernière, j'étais confronté au cas. On a dû faire. Un élève qui est en Ulysse, dans une structure spécialisée, pour les équipes de sécurisation, la collègue n'avait pas de ressources. J'ai réussi à en trouver une, mais voilà. Mais il faut batailler, parce qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a rien, alors qu'il y a des ressources qui existent. Et ça, c'est quand même déjà, c'est quand même incroyable. L'éducation nationale, moi je considère qu'on est au service du public. Et on n'a même pas les moyens de pouvoir avoir des ressources, ne serait-ce pour créer les conditions d'un dialogue avec les familles.
Vous avez un numéro de téléphone, on vous a créé un numéro de téléphone. Si vous êtes agressé, vous téléphonez à l'éducation
nationale. Oui, mais malheureusement, c'est cher. Hein.
Bah oui, non, mais il a tout à fait raison. L'éducation nationale.
Mais c'est vrai que ça pose un vrai problème. Quand
bien
on parle finalement
ah bah oui,
avec les assurances sociales et tout, travailleurs sociaux dans l'éducation nationale. Il y a cette question-là est absente. Moi, dans toute ma formation, c'est absent. C'est que les démarches individuelles, si vous avez envie de vous y intéresser parce que vous êtes confronté. Et c'est vrai que les systèmes de valeurs éducatives ne sont pas les mêmes. C'est vrai que nous, on fonctionne sur un. Par exemple, sur l'autorité parentale, ça va être père-mère, forcément, les interlocuteurs dans d'autres familles. Moi, pour avoir quand même être rentré dans certains milieux, ben, ça ne va pas être forcément le père et la mère qui va être le premier interlocuteur. Ça peut être le grand frère, la grande soeur qui joue. Mais à chaque fois, qu'est-ce qu'on va dire? Ah ben non! On voit le père, on voit la mère. Mmh. Et nous, on est formatés, il faut le dire clairement.
Bah oui, oui.
Oui.
Dans le monologisme dont parlait Étienne.
Et là, les questions que vous posez sont absolument fondamentales.
Ouais.
Et moi, je suis ravi que... Bon, alors, au Burkina, je devrais demander la route. Je devrais demander la route 3 fois avant de pouvoir l'obtenir. Là, je la prends par un acte de décision, simplement parce que je suis épuisé et que donc j'ai plus la force nécessaire pour pouvoir aller jusqu'au bout. Mais alors, j'aurais voulu vous parler un petit peu d'un problème, mais qui est plus complexe, c'est celui de la mobilisation du terme colonisation avec la notion de colonialité. Alors, je n'ai pas rentré là-dedans parce que de toute façon, je l'ai écrit dans la préface, mais ça fait partie de ces obstacles que, en termes très scientifiques, on appelle épistémologiques, hein, c'est-à-dire qui concernent la critique de la pratique scientifique. Hein. Donc, la notion de colonisation est un obstacle épistémologique majeur à la poursuite de tout notre travail. Et je vous demande, je vais même plus loin, je vous supplie, de continuer à réfléchir sur ce type de questions, car depuis 1959-60, hein, donc nous ne sommes pas sortis du rapport colonial avec nos relations avec nos anciennes territoires, disons, des Outre-mer. Hein. Et donc, et nous ne sommes pas sortis ici de la suffisance intellectuelle qui nous anime par rapport à tout ce qui est autre, différent. Et ça, c'est quelque chose d'incroyablement gravissime, parce que c'est peut-être même l'idée de société, de civilisation qui est en cause. L'impossibilité de percevoir l'autre, c'est l'impossibilité de faire société. Et donc, nous allons vers certaines formes d'automutilation, presque de suicide collectif, parce que ce n'est pas simplement le climat qui est en question, c'est la manière sur laquelle nous nous pensons en tant que société, en tant qu'être humain dans les sociétés. Je vous remercie d'avoir accepté d'écouter ces quelques remarques. Je suis vraiment fatigué, mais quel plaisir de vous avoir vu, entendu, d'avoir vu combien tout ce qui vous anime est susceptible d'être partagé. Hein, et que donc il faut que nous recommencions à partager ces expériences, car c'est là qu'est véritablement, à travers l'interculturalité, l'enjeu fondamental de regard et de tout ce qui nous a animés jusque maintenant. Alors, je vous prie d'excuser mon départ à la Hussarde, mais...
Non, mais je pense... Je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres... Bon, ben, merci beaucoup, Étienne. Hein. Merci, Jacqueline.
Et je vous souhaite...
Merci.
Beaucoup
de plaisir. À bientôt. Merci. Et puis, à bientôt. Je sais
pas, À bientôt. Thank you. C'est du bio, il a dit.
Oui, mais c'est du bio.
Attends, j'arrive.